As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms or restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast à vous, oui, à vous, amateurs du Canadien de Montréal, votre podcast par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Arpin Basu, comme à chaque semaine. Bonjour Arpin.
Salut, salut.
Ça va bien? Tu t'es bien remis de Buffalo?
Ben oui, on a passé 5 jours merveilleux à Buffalo, puis honnêtement, c'est... Je prends l'opportunité pour dire que Buffalo... C'est un peu négligé comme ville, tu sais. Il y a une mauvaise réputation parce que, tu sais, en hiver, il neige beaucoup. Il y a du monde qui a l'impression que c'est pas très beau. Puis je dirais pas que c'est la plus belle ville au monde, mais quand même, il y a un certain vibe à Buffalo que j'apprécie. Alors, j'aime ça visiter de temps en temps.
Absolument. Puis on était là à l'occasion donc, du combine de la Ligue nationale. Si vous avez écouté notre épisode de la semaine dernière en anglais, bien, vous savez qu'on a reçu en entrevue Shane Wright, Jura Slavkovski et puis Logan Cooley. Donc ça, c'était pas mal le fun. Et puis, ben, on va aborder un peu, on va faire un bilan de ce combine-là parce qu'on a quand même récolté pas mal d'informations relativement aux Canadiens à l'occasion de cet événement-là de la Ligue nationale, l'événement annuel que la Ligue, je pense, était très contente de pouvoir remettre en opération. On va également vous faire entendre une entrevue qu'on a passée avec Noah Warren, qui est un défenseur des Olympiques de Gatineau. Défenseur qui, a priori, on aurait pu croire qu'il allait être davantage un choix genre de troisième ronde, mais semble-t-il qu'il y a des équipes qui sont extrêmement intéressées par ce défenseur format géant, si bien qu'il devrait vraisemblablement partir dans les 50 premiers. Alors, est-ce qu'il sera une cible potentielle pour le Canadien? Ben, on verra bien, mais c'est un gars qui était très articulé, puis on aura l'occasion donc de l'entendre un peu plus tard. Mais avant d'aborder la question du combine, Arpin, quand même grosse nouvelle annoncée par le Canadien hier, donc mardi, avec la nomination de Marie-Philippe Poulin comme consultante au développement hockey. Marie-Philippe qui n'a pas encore renoncé à sa carrière de joueuse, elle veut faire un autre cycle olympique, donc elle va en avoir pour 4 ans encore à jouer, entre autres au sein de l'équipe nationale canadienne. Mais c'est une grande vedette dans le hockey féminin international. Certains la décrivent comme tout simplement la meilleure joueuse au monde. Et puis le Canadien est allé donc s'assurer ses services avant même la fin de sa carrière active de joueuse, dis-je. Et Et puis, donc, l'ajoute à son personnel, à son équipe qui est son équipe en développement, de développement. Et puis, ben, je serais curieux de t'entendre sur ce que tu penses qu'elle pourra apporter au tricolore. Donc, on sait déjà qu'elle va surtout travailler avec les espoirs de l'organisation, des choses qui vont se faire à distance, puis des choses qui vont se faire dans la mesure du possible en direct sur la glace avec certains espoirs. Mais comment tu vois l'arrivée de Marie-Philippe Poulin avec les Canadiens?
Mais en fait, en termes de détails de ce qu'elle pourrait faire ou son rôle ou quel impact elle pourrait avoir, je pense que c'est moins important que le fait d'avoir quelqu'un, la stature de Marie-Philippe Poulin, quelqu'un avec sa réputation, c'est tous les bons mots qui sont dits d'elle de la part de ses coéquipières pendant des années, puis le fait qu'elle soit quelqu'un qui a continué à s'améliorer. En fait, c'est un peu comme Martin Saint-Louis a souvent parlé de son propre carrière comme joueur, mais Marie-Philippe Poulin, tu sais, devient de plus en plus âgée, mais sa game, ça demeure quand même moderne puis en évolution constante. Alors, je pense que c'est un peu ça que le Canadien veut amener, quelqu'un qui est capable de reconnaître les tendances dans le sport, qui peut le voir avec une certaine expertise que pas tout le monde a, et éventuellement l'avoir comme quelqu'un qui va faire une grande partie de leur équipe en termes de développement des joueurs, et qui sait quoi après, ça se peut que ça peut évoluer à quelque chose d'autre après qu'elle commence comme ça, mais c'est assez clair que pour l'instant, son rôle n'est pas vraiment très défini. Là, je pense que ce qui était important pour le Canadien, c'est de l'avoir avec eux, d'ouvrir la porte, puis qu'elle soit d'accord de franchir cette porte-là, puis faire un petit pas dans l'organisation pendant qu'elle est quand même extrêmement concentrée, puis met la priorité sur sa carrière de joueuse jusqu'aux prochains Olympiques. Puis après ça, on verra ce qui va se passer. Mais moi, je vois ça d'un bon oeil, dans le sens où avoir l'opinion de quelqu'un comme Marie-Philippe Poulin ne peut pas nuire. Tu sais, il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est juste du positif parce que son expertise est... Et c'est clair que quand elle va parler avec un joueur, elle a instantanément un certain respect avec ce joueur-là, parce que peu importe que c'est une femme ou c'est une, tu sais, le sport féminin est quand même assez différent que le côté masculin. Il y a certains éléments de base qui sont non seulement les mêmes, mais je dirais même que sont meilleurs dans le game féminin à cause du, puis Marie-Philippe Poulin a mentionné ça, à cause du manque des mises en échec légales, disons. Tu sais, il y a quand même du jeu physique dans le jeu féminin, mais il n'y a pas cet aspect-là qui met l'emphase ou met l'accent sur les habiletés, la rapidité de bouger la rondelle, comme elle a mentionné. Et ces aspects-là, je pense que le sport masculin pourrait en profiter de quelques-uns de ces aspects-là. Alors, si elle peut amener ça aux espoirs, juste avec ses observations, juste avec ses petits commentaires, en regardant du vidéo, ou si c'est en présentiel à des matchs des espoirs, elle avait mentionné la possibilité de faire ça. Je pense qu'il y a juste du positif là-dedans pour le Canadien.
Oui, puis le fait qu'elle commence avec des espoirs, ce qui est bien, c'est que si jamais elle se trouve une vocation dans ce type de travail-là, on sait que Marie-Philippe Poulin, avec Caroline Ouellette, ont déjà eu déjà organisé des camps de hockey, donc elle a une certaine expérience en termes de, en guillemets, de tutorat. Mais si elle se découvre vraiment un talent puis une vocation en termes de communicatrice et en termes d'enseignante, et que ça fonctionne bien avec ces espoirs-là, mais il y a certains de ces espoirs-là qui vont graduer à la Ligue nationale. Et une fois qu'ils vont graduer dans la Ligue nationale, ils vont s'être habitués au contact puis à la communication qu'ils vont avoir développée avec elle, ce qui fait que un jour, elle pourrait justement se retrouver à travailler davantage avec des joueurs de la Ligue nationale quand ça va être en graduant avec ceux avec qui il va avoir commencé à travailler. C'est, fait que c'est probablement la transition la plus efficace puis la plus en douceur qui pourrait se produire, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben là, comment... » Si elle était parachutée du jour au lendemain puis à travailler avec des joueurs de la Ligue nationale qui sont des vétérans aguerris, comment ça se passerait, etc. Écoute, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais je pense que cette transition-là, en commençant avec des espoirs puis en éventuellement pouvant transférer à la Ligue nationale, ce serait probablement la meilleure façon de fonctionner. Par ailleurs, elle va travailler, entre autres, en coordination avec Adam Nicholas, qui est le nouveau directeur du développement hockey chez le Canadien. Il a été nommé il y a quelques mois. On n'a pas eu encore l'occasion de parler à Adam. Elle non plus.
Oui, elle non plus. Mais puis on l'aura pas aussi. C'est, la demande a été faite, puis je pense que c'est quelqu'un qui préfère pas parler aux médias. C'est quelqu'un qui... C'était comme vraiment un nom très dur. Et ça, c'est comme non, je le ferai pas. Alors, c'est correct. C'est tant mieux, mais c'est ça. Elle, on penserait qu'elle aurait le droit d'avoir un droit de parole avec cet homme-là.
Oui, ça se peut. Mais tu sais, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner entre les deux. Évidemment, comment les tâches vont être divisées. Mais ce que je sais, c'est que Adam Nicholas, dans sa façon de fonctionner, tu sais, il y en a plusieurs qui vont associer un entraîneur un responsable du développement hockey avec un responsable du développement des joueurs ou penser à des entraîneurs d'habileté. Adam Nicholas, c'est pas nécessairement juste un gars qui développe les habiletés, c'est un gars qui veut essayer de développer les habiletés, mais dans le contexte des matchs. C'est-à-dire comment par exemple, s'ils décident de travailler avec des joueurs sur leur lancer, c'est sur la façon dont ils dégainent leur lancer, ils vont pas simplement dire « Ok, bon, on va pratiquer ton lancer, puis on va se placer à la ligne bleue, puis on va pratiquer ton lancer. » Mais il va recréer des situations de match pour pouvoir voir de quelle manière, dans une situation de match, la possibilité de pouvoir dégainer un lancer se présente pour de vrai. Donc, c'est recréer de vraies situations de jeu et aussi de pouvoir développer des habiletés en fonction du style de jeu que pratique une équipe. Donc, c'est quelque chose qui est une mentalité qui est beaucoup plus organique, qui n'est pas strictement basée sur le développement d'une habileté individuelle. Souvent, ça, c'est le genre de choses qu'un joueur va faire par lui-même durant la saison morte. Et puis, probablement, j'ose croire que Marie-Philippe Poulin va avoir un rôle justement analogue à ça, puis il va s'inscrire dans cette méthode-là et qui est un peu... qui on pourrait qualifier de moderne, certainement nouvelle au sein de l'organisation du Canadien.
Oui, puis une autre façon que Adam Nicholas travaille, puis en fait, c'est un peu ça la question avec ce que Marie-Philippe Poulin va être capable de faire la saison prochaine et pour les saisons à venir, c'est que, tu sais, Adam Nicholas n'est pas à Montréal ou à Brassard à temps plein. Il arrive de temps en temps, passe une semaine ou deux, et il est disponible pour les joueurs du Canadien dans la Ligue nationale ou des joueurs qui sont avec l'équipe, qui ne jouent pas peut-être régulièrement, mais sont surtout des joueurs de Rocket. Mais ces joueurs-là ont la possibilité ou l'option d'aller travailler avec Adam Nicholas ou sur une base one-on-one ou dans un petit groupe. Mais ce qui fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand il se retrouve sur la glace avec quelqu'un, tu sais, je l'ai vu patiner un jour tard dans la saison avec Emil Heinemann. Puis, tu sais, il installe un iPad sur la glace avec un tripod, puis il fait des drills. Puis après avoir fait les drills, ils s'en vont à iPad ensemble, puis ils regardent comment il a fait, puis il fait des suggestions basées sur la vidéo avec le joueur lui-même. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé, tu sais, c'est quand même une approche qui est quand même assez moderne, qui utilise des technologies disponibles maintenant à son plein potentiel. En termes de Marie-Philippe Poulin, tu sais, une chose qui est claire de cette disponibilité immédiate, c'est que c'est pas clair exactement comment elle va travailler. Elle le sait pas encore. Je pense que l'organisation même le sait pas encore. Mais je me demande à quel point elle va être capable d'avoir accès, tu sais, parce que nous, elle, quand elle parle des espoirs au niveau junior ou collégial aux États-Unis ou même en Europe. Et ça va être surtout du travail vidéo, peut-être des rencontres Zoom, tu sais, mais je peux pas croire que Marie-Philippe Poulin, en plein milieu d'être une joueuse de hockey au niveau national qui se prépare pour un cycle olympique, va être capable de voyager partout au monde pour aller visiter avec ces joueurs-là. Puis, entre autres, ils ont déjà un département qui fait ça, avec François Bouillon et Rob Ramage, qui sont le département de développement des joueurs, qui se différencie, j'imagine, je ne sais pas comment, mais ça différencie du développement hockey. Mais c'est eux autres qui se chargent souvent d'aller sur place puis visiter avec leurs espoirs un peu partout. Alors, tu sais, il me semble, et on n'a eu aucune réponse à cette question-là pendant la disponibilité média, mais il me semble que Marie-Philippe Poulin ne va pas être dans une position de vraiment faire ça, de travailler sur la glace trop souvent avec les espoirs du Canadien. Alors, ça va être surtout la base de vidéos, mais je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que c'est vraiment, c'est non seulement que le Canadien va bénéficier de l'expertise de Marie-Philippe Poulin dans certains aspects de son travail, et c'est également un apprentissage pour elle, pour c'est ses premiers pas dans ce métier-là, dans son après-carrière. Alors, ça va prendre du temps, puis je pense que c'est une bonne chose. T'sais, on a souvent dit que le Canadien doit développer leurs entraîneurs-chefs à cause du fait qu'ils ont certaines limitations en termes de qui il peut engager pour ce poste-là. Alors, c'est souvent dit que l'entraîneur-chef à Laval ou dans le club école devrait être quelqu'un qui pourrait possiblement devenir le coach du Canadien un jour ou avoir des adjoints, comme Claude Julien avait avec Dominique Ducharme, d'avoir quelqu'un qui pourrait un jour être entraîneur. Alors, c'est pas dans le même sens-là. Je sais pas si Marie-Philippe Poulin va devenir entraîneur-chef du Canadien un jour. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de former quelqu'un qui a une expertise évidente, mais le former dans toutes les techniques et toutes les méthodes d'apprentissage et de coaching qui va être nécessaire pour elle pour effectivement faire la transition d'une joueuse à une entraîneuse, j'imagine, dans l'avenir. Alors ça, c'est une bonne chose à voir. T'sais, elle a déjà l'expertise, mais il faut juste qu'elle apprenne comment le partager avec les jeunes joueurs.
Ouais,
ce qu'elle fait déjà comme joueuse, honnêtement, là, comme capitaine d'équipe Canada, je pense que si tu parles à n'importe quel de ses jeunes coéquipières, c'est quelqu'un qui est déjà a ce rôle de mentor là, qui aide les jeunes à s'incorporer au sein de l'équipe. Alors, c'est juste une question de faire ça, pas dans le contexte d'une équipe, mais dans le contexte d'une organisation, puis avec des joueurs qui sont un peu partout.
Moi, ce que j'aime beaucoup de cette nomination-là, écoute, d'abord, c'est que j'ai l'impression que la nouvelle direction du Canadien, chaque embauche qu'ils font, c'est du monde de qualité puis du monde avec la crédibilité qu'ils amènent. Tu sais, tu regardes, on parlait d'Adam Nicholas tout à l'heure. C'est un gars qui, dans son créneau, dans son domaine, c'est pas un gars qui est connu du vaste public, mais dans son créneau, c'est un gars qui est extrêmement réputé. Tu sais, c'est un gars qui, un jour, Zdeno Chara l'a croisé dans un Starbucks puis il a dit « Hey, il faut que tu travailles avec moi. J'ai besoin de trouver des moyens de prolonger ma carrière puis d'améliorer ma mobilité parce que j'approche 40 ans. Faut que je trouve des solutions. » Puis parfait, il a travaillé avec lui. Tu sais, c'est ce genre de gars-là extrêmement réputé. Ils ont embauché Chris Boucher comme directeur du département d'analyse statistique. Chris va monter sa propre équipe, mais lui, c'est un gars qui est à la fine pointe, un ancien de SportsLogic, une sommité dans le domaine. Là, ils amènent Marie-Philippe Poulin, une autre personne qui est une excellente tête de hockey. Jeff Molson a mentionné le fait que ce qui était le plus intéressant, le plus séduisant à première vue, c'est le fait que c'était une gagnante. C'est une femme qui avait développé ce qu'il fallait pour gagner. Puis c'est quelque chose qui est toujours intéressant à pouvoir transmettre. Je pense qu'il y a... Puis les joueurs de hockey savent le reconnaître. Ils reconnaissent les gagnants entre eux autres. Puis, bon, pour ce qui est du recrutement, on n'a pas encore parlé à Nikolaï Bobrov. Je ne sais pas trop ce qu'il en est de son côté. Mais de manière générale, l'impression que j'ai... Puis là, évidemment, on peut rajouter Martin Saint-Louis, il va s'en dire à tout ça. C'est que le Canadien est en train de monter un état-major, un département hockey qui est crédible, qui est formé de personnes... c'est bien campé et qui ajoutent énormément de poids et de comment je pourrais dire, de pedigree à cette équipe-là. Puis je pense que ça va créer un effet boule de neige parce que les gens vont regarder le Canadien et vont dire « OK, regardez qui il y a à l'intérieur de cette organisation-là, qui est le personnel au sein de l'équipe. » Puis moi, j'ai le goût de travailler pour du monde comme ça. Alors, moi, je trouve ça très enthousiasmant, puis la venue de Marie-Philippe Poulin, c'est encourageant. Évidemment, Jeff Molson en avait fait une priorité d'ajouter des femmes ou éventuellement peut-être des personnes de minorités visibles également. Mais lui, il avait dit, bon, je vais ajouter la diversité au sein de mes opérations hockey. Je ne sais pas si Marie-Philippe Poulin fait en sorte que l'organisation du Canadien va dire, bon, on a coché cette case-là. Mon impression, c'est qu'il voudrait aller plus loin encore. Mais je trouve que elle coche plusieurs cases. Et quand à chaque fois que tu embauches quelqu'un et tu dis « Ah, ben cette personne-là cochait plusieurs cases pour nous », c'est toujours bon signe.
Oui, puis effectivement, ben oui et non, en fait. Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, je m'imaginais dans la peau de Marie-Philippe Poulin pendant que Jeff Molson parlait de ce volet-là, de son embauche-là. Et écoute, premièrement, c'est clair que, tu sais, Jeff Molson l'a dit, ça c'est une décision hockey, ça c'est quelque chose que, qui nous améliore comme organisation, mais en même temps, ça accomplit ce que j'avais identifié comme étant une priorité. En fait, ça accomplit trois choses, dans le fond, selon lui. C'est que ça améliore le développement des joueurs. Ça amène quelqu'un qui croit dans l'analyse statistique et puis qui est capable d'utiliser, qui croit en ça. Et troisièmement, c'est une femme. Alors, les trois choses sont cochées comme boîte, mais tu sais, moi, étant quelqu'un, une personne qui vient d'être engagée pour un poste, étant une minorité visible, tu sais, j'aurais aimé ça plus ou moins entendre que je coche une boîte, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose, c'est touché un peu, parce que c'est vrai, c'est la réalité, mais je pense que c'est important de noter que Jeff Molson était très, très clair que ça, c'était secondaire
mm-hmm. aux qualités. Non, c'est qualités. Pas pour ça. Ouais,
c'est ouais. pas pour ça, c'était secondaire aux qualités que Marie-Philippe Poulin amène à l'organisation, c'est pour ça que l'organisation est tellement enthousiaste de son arrivée, mais en même temps, ça accomplit quelque chose que Molson avait promis, puis il l'a dit deux, trois fois pendant l'entretien avec les médias que le 29 novembre, il avait promis que cela va arriver. Mais il a aussi mentionné qu'il espère que ça c'est une embauche à temps partiel. Il espère en avoir d'autres. Je pense qu'il y a le département de Christopher Boucher dans l'analyse statistique qui reste à compléter. Il va y avoir d'autres embauches dans ce département-là. J'avais parlé à Ken Hughes à ce sujet-là en mois de mars, en Floride, après la réunion des directeurs généraux, son premier comme DG du Canadien, puis il avait mentionné que oui, effectivement, dans le domaine de l'analyse statistique, il y a beaucoup d'opportunités d'aller engager du monde qui ne sont pas nécessairement du monde typique, du monde de hockey, qui sont des hommes blancs. Il faut être honnête de commencer dans la ligue. Alors ça, c'est une possibilité, mais il ciblait à l'époque le développement des joueurs pour aller engager des femmes dans ce domaine-là, parce qu'à part Hayley Wickenheiser et Danielle Goyette, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient sur la glace avec les joueurs. Alors là, il y en a un autre avec Marie-Philippe Poulin. Est-ce qu'il va y avoir d'autres qui vont s'ajouter à elle dans ce département-là? Parce que je pense que les Canadiens aimeraient ça renforcer le département. Jeff Molson a mentionné qu'il y avait deux qui travaillaient dans ce domaine-là le 29 novembre, puis là, ils sont rendus à quatre, alors le double. Mais il me semble que c'est un département qu'il aimerait renforcer encore plus. Alors, on verra si ça leur donne l'opportunité d'ajouter d'autres voix un peu plus diverses au cours des prochaines semaines ou mois.
Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir, parce que là, il y a d'autres embauches qui vont venir. Tu sais, effectivement, analyse statistique, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait deux autres personnes au moins qui soient nommées au cours des prochaines semaines, prochains mois. Mais je m'attends d'ici la fin de l'été. Il se peut très bien que Kent Hughes décide de s'adjoindre les services d'un assistant directeur général. Ça, c'est un petit peu... On a cessé d'en entendre parler, mais je pense que ça, c'est une option qui est encore sur la table. Martin Saint-Louis a mentionné qu'il était ouvert, peut-être, ou il pourrait être intéressé à ajouter un autre adjoint derrière le banc. Je pense qu'il va y avoir encore du mouvement au sein du personnel là, hors glace du Canadien. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Si on retournait du côté de Buffalo, où on a passé donc quelques jours la semaine dernière, Arpin, le combine est toujours un moment très intéressant dans le calendrier de la Ligue nationale, parce qu'il y a une foule de personnes, des directeurs généraux, des agents, évidemment, une tonne de recruteurs qui sont sur place. Donc, ça devient vraiment un carrefour d'échange d'informations. C'est aussi un moment très rafraîchissant, parce que c'est un moment qui est rempli d'espoir. C'est un moment qui est animé par des jeunes qui rêvent d'être pêchés par les équipes de la Ligue nationale, qui veulent se présenter sur leur meilleur jour, puis donner la meilleure impression possible, tant en entrevue que lors des tests physiques. Donc, c'est toujours un moment qui est réjouissant. Il n'y a rien de morose dans les combines de la Ligue nationale. Celui de cette année, nous, c'était pas le premier qu'on couvrait. Écoute, moi, je pense que je les couvre depuis 2000, 2008, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a frappé ou qu'est-ce que t'as retenu dans celui de cette année?
Ben, en fait, premièrement, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le monde était heureux de parler face à face avec d'autres mondes. Tu sais, c'est quand même... C'est le premier événement de la Ligue nationale qui a eu lieu en présentiel, en si grand nombre, tu sais, avec tellement de, comme tu as mentionné, toutes les des personnels des équipes, des agents, des joueurs en termes d'espoir, des journalistes. Alors, c'était le fun d'être tous dans la même place et capable d'échanger avec du monde. Tu sais, c'est difficile d'avoir une conversation qui est entre guillemets off the record, qui est juste quelque chose, c'est pas une entrevue, c'est juste une conversation puis où il y a des idées, il y a de l'information qui s'échange d'un bord et à l'autre, sans que ça soit formel. C'est le vibe d'une conversation comme ça est beaucoup plus différente qu'une vibe que quand tu appelles quelqu'un au téléphone ou que tu fais une entrevue en Zoom avec plein de médias autour. C'est sûr que ça donne que tu es capable d'avoir un meilleur échange avec un plus grand nombre de personnes que tu n'aurais pas autrement. Alors ça, pour faire notre métier, je pense que il y a beaucoup de monde qui comprend que c'est important pour notre métier, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas aussi que ça fait une grande partie de notre métier. C'est quand on écrit quelque chose, c'est souvent basé sur des conversations qu'on a qui nous permet juste de former, si c'est une opinion ou si c'est une analyse quelconque, que c'est basé sur quelque chose de concret, une information qu'on a eue qu'on ne peut pas nécessairement diffuser à tout le monde parce que ce n'était pas une entrevue officielle, ce n'était pas quelque chose qui était on the record, mais ça nous permet de shaper un peu notre reportage ou notre analyse ou nos impressions d'une certaine situation mieux qu'on pouvait quand on était dans notre salon ou dans notre bureau chez nous en termes de faire des appels ou faire des zooms.
Ouais. Moi, une autre affaire qui m'a frappé, puis ça, c'est davantage par rapport aux espoirs eux-mêmes, c'est la quantité, l'ampleur de l'incertitude qui entoure ce repêchage-là. Je pense que à chaque fois qu'on se retrouve avec une cuvée qui est peut-être pas reconnue comme étant une cuvée extrêmement forte, ça augmente la part d'incertitude, puis ça fait en sorte que souvent tu vas dire, OK, il y a des espoirs, il y a souvent, disons, 3 ou 4 espoirs qui peuvent être pratiquement, on peut annoncer d'avance quelle équipe va les repêcher. Puis il y a toujours, à un moment donné, il y a des recruteurs qui m'ont dit, bon, on savait que ça allait faire 1, 2, 3, 4, puis que le vrai repêchage allait commencer à 5 ou à 6, peu importe. Mais tu sais, le vrai repêchage commence à tel rang, c'est une phrase que j'ai entendue souvent au fil des ans.
Mm-hmm.
Mais là, le vrai repêchage commence dès le premier rang.
À numéro 1, ouais, absolument. Ouais.
Et ça fait en sorte que ça rend ça très excitant pour tout le monde parce que même si chaque équipe va avoir sa liste, puis va... Tu sais, normalement, là, tu essaies de pas déroger ta liste. Hein. Tu montes, tu as passé tellement de temps à pouvoir la mettre sur pied, à pouvoir débattre des mérites de l'un et de l'autre que tu ne veux pas, en tant qu'équipe, te retrouver piégé à regarder l'allure du repêchage, dire « Hein! » Cette équipe-là a pris telle personne, puis se retrouver tenté de sauter par-dessus un ou deux noms qui sont en avant sur ta liste pour aller chercher un autre gars. Normalement, les équipes, peu importe l'allure du repêchage, vont tenir mordicus à leur liste, mais c'est quand même, dans l'élaboration de cette liste-là, ce qui est excitant, c'est que chaque équipe sait que la liste de l'autre va être complètement différente. Il y a peut-être... Il semble y avoir un bon consensus à l'effet qu'il n'y a pas une tonne de bons espoirs d'excellents espoirs.
Espoirs élites.
Espoirs élites.
Ouais.
Ou même, tu sais, disons, de très bons espoirs, mais sauf que c'est pas tout le monde qui va avoir la même liste de 50. T'sais. Alors, l'un considère comme étant un très bon espoir, l'autre va te dire, regarde, je l'ai carrément pas sur ma liste. Mais je pense que ça devient les jeux de coulisses, le jeu de devinettes d'une équipe à l'autre me semble encore plus relevé cette année. Puis je parlais à un recruteur d'une équipe, tu sais, qui est assez haut placé dans le repêchage. Parce que nous, on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va faire déjà. Puis on est tributaire de ce qui va se passer en haut de nous aussi. Tu sais. Mais sauf que la part d'incertitude fait en sorte que c'est excitant. T'sais. Puis ça, je trouve ça le fun à propos du repêchage de cette année.
Oui, puis effectivement, la seule équipe qui peut pas dire que ça dépend de ce qui se passe au-dessus de nous, c'est le Canadien. Alors, je pense que c'était le sujet le plus populaire de la semaine. C'était un peu qu'est-ce que le Canadien va faire. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde, des recruteurs, du monde qui travaille dans le hockey en termes de n'importe quel poste que tu peux imaginer, était en train de se débattre, puis avait une opinion sur ce que le Canadien allait faire. Mon impression, ou notre impression, je pense, commune, c'est que le Canadien lui-même, c'est pas encore ce qu'il va faire, mais ce qui est clair, c'est que il va avoir un vrai débat. Tu sais, c'est comme... tu sais, Shane Wright est là, puis il n'y a rien fait pour convaincre qui que ce soit que ça ne devrait pas être lui, peut-être. C'est plus, je pense, une question où Shane Wright a comme gardé le cas, a gardé son statut, gardé l'évaluation n'a pas changé trop pendant les séries. Et si ça a changé, ça a changé un peu vers la baisse, mais pas trop à mon... En tout cas, à mon propre avis, avoir vu tous ces matchs en série, mais je pense qu'il y avait des recruteurs qui étaient un peu qui s'attendaient à plus de sa part dans un environnement de série. Et de l'autre bord, tu as Juraj Slafkovský qui a fait l'opposé, qui a surpassé les attentes, qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait voir à quel point il était capable de performer dans l'environnement le plus compétitif de sa saison, qui était les championnats du monde en Finlande. Même s'il a joué toute la saison avec des hommes en Finlande, la Ligue elle-même est un peu... est très différente de la Ligue nationale. Et je ne veux pas dire que les championnats du monde, c'était une comparaison parfaite avec la Ligue nationale, sauf qu'il y avait beaucoup de talent de la Ligue nationale dans ce tournoi-là. Et il a pu se démarquer, puis il était vraiment, selon quelques personnes, même, était le meilleur joueur de son équipe. Une équipe qui incluait Tomáš Tatar, tu sais, c'est pas comme si... Puis d'autres joueurs de la Ligue nationale, et c'était quand même lui qui était le gars qui se démarquait le plus match après match, même si la plupart de ses points, presque tous ses points, en fait, sont venus contre des équipes d'un peu de moins calibre dans le tournoi. Ses performances contre les meilleures équipes étaient quand même remarquables, puis je pense que sa performance, particulièrement contre le Canada, a laissé beaucoup de monde pas mal impressionné, puis a réussi à monter sa cote un tout petit peu comparé à ses débuts dans le tournoi.
Ben, à propos de Slafkovský, tu sais, je sais que c'est, je comprends que ce soit la saveur du mois à l'heure actuelle, puis que les gens s'emballent sur sa carrure, sur son rendement dans la compétition internationale, sur sa personnalité, sur son potentiel. C'est sûr que ça en fait un espoir très intriguant. Mais en même temps, moi, le bout qui me chicote, c'est sa production en Liga. Pour sa saison de 17 ans, tu sais, quand tu regardes le bonhomme à l'an, ce qu'il a réussi à accomplir en termes statistiques dans l'uniforme du TPS Turku, bon, on parlait, tu sais, de Shane Wright qui a pu laisser des recruteurs sur leur faim. En même temps, tu regardes Slafkovský dans la Ligue de Finlande, puis tu dis, OK, à Turku, en 31 matchs, 5 buts, 5 passes. Puis tu comprends, c'est une ligue d'hommes, puis souvent, les joueurs de 17 ans ont un temps de jeu réduit, c'est une ligue à caractère défensif, là-bas, on lui demandait, tu sais, puis il a été assez ouvert avec ça, je trouve, quand on lui a parlé, il a été assez clair à l'effet qu'il se sentait un petit peu restreint dans le cadre qui lui était imposé à Turku. Mais malgré ça, si tu essaies de faire une équivalence puis de regarder les saisons de 17 ans de différents joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, tu sais, je me suis amusé à faire l'exercice, tu sais, prendre des gars des 10 dernières années. Là, Slafkovský, sa production de points par match, elle est à peu près la moitié de celle qui était Arturi Lehkonen en 2012-2013. Des gars comme Joel Armia ont eu une meilleure, meilleure production par match que lui. Jesperi Kotkaniemi également, t'sais, plusieurs gars. Alors tu te dis, OK, est-ce qu'il a suffisamment, c'est beau qu'il ait réussi dans un cadre international à s'imposer, puis peut-être que c'est un échantillon qui est assez grand dans sa saison, plus que, je pense qu'il y a plus que environ 35% de ses matchs ont été joués dans un cadre international. Peut-être que l'échantillon est suffisamment grand pour que, pour convaincre les recruteurs que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Mais toi, ce que ça te chicote de dire que dans le cadre de la Ligue finlandaise, il se soit limité à, tu sais, 0.323 points par match en 31 rencontres. Est-ce que c'est un drapeau rouge pour toi?
Ben, d'une certaine façon, oui, parce que dans le fond, c'est un peu la même chose qui se fait dire aux dépens de Shane Wright. Sa production en série était correcte, mais sans être plus que ça. Sa production en saison régulière était correcte, sans être plus que ça. On essaie tout le temps, tu sais, comme on a écrit dans notre texte lundi, c'est que tu veux pas te faire trop influencer par les derniers résultats que tu as vus. Je pense que dans ce cas-là, c'est tellement proche entre les deux joueurs, et même peut-être même trois joueurs, tu sais, peut-être que je pense qu'il y a des équipes qui trouvent que Logan Cooley est dans cette conversation-là aussi, puis lui aussi a terminé sa saison en force avec une très forte tournoi de moins 18 ans, championnat du monde de moins 18 ans. Mais est-ce que tu te laisses influencer plus par les performances les plus récentes ou est-ce que tu prends un plus grand échantillon puis tenir ton évaluation là-dessus puis dire, OK, le plus de matchs, ça nous donne la meilleure idée de comment ce joueur-là va être au prochain niveau. Dans le cas de Shane Wright, la force de son jeu, c'est la constance. C'est vraiment quelqu'un qui joue de la même façon tout le temps. Peu importe. Tu sais, c'est honnêtement, c'est frappant à quel point il laisse pas. Et peut-être qu'il y a du monde qui le critique pour ça, mais la situation de match change pas la façon qu'il joue. S'ils sont d'avance d'un but, s'ils perdent par un but, si c'est tôt dans le match, si c'est tard dans le match, lui, son jeu reste le même. Et c'est un jeu qui est très axé sur la responsabilité défensive, puis je pense que lui, il a admis que peut-être que le fait qu'il a mis tellement d'emphase sur cet aspect-là de son jeu, ça l'a empêché de produire des chiffres qui auraient été un peu plus attrayants pour les recruteurs, mais c'est quelque chose qu'il trouvait être important, c'est quelque chose qu'il trouve être important dans le hockey d'aujourd'hui, et le hockey dans la Ligue nationale et son rôle qu'il prévoit jouer dans la Ligue nationale va avoir une grande partie de ça. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour un joueur qui entre dans son année de repêchage, particulièrement un joueur qui a manqué son année d'avant. Tu sais, de dire que moi, je vais mettre l'accès sur mon jeu défensif, je vais être profond dans zone défensive tout le temps et supporter mes défenseurs, même s'il faut que je sacrifie un peu d'attaque, parce que c'est pas souvent que Shane Wright marquait des buts sur le rush, comme on dit. Là. C'est vraiment quelqu'un qu'il fallait qu'il rattrape un peu le jeu à cause du fait qu'il est aidé dans sa zone défensive. Alors, tu sais, je sais pas c'est quoi la réponse à cette question-là, parce que d'un part, je peux voir comment un jeune joueur peut aller à un tournoi où la compétition était aussi élevée que le championnat du monde, puis est capable de se démarquer, puis de se faire valoir, puis vraiment montrer tout son paquet d'habilités et tout son paquet d'outils qu'il a à sa disposition, contre un gars qui a vraiment démontré une constance qui est quand même assez remarquable, même si lui-même trouvait que il n'était pas très constant, que une grande partie de la saison, tu sais, il tenait le bâton un peu trop serré, il essayait des jeux qui n'étaient pas là. Je pense que pour la plupart du temps, ce n'était pas le cas dans son cas. C'était vraiment, il choisissait le jeu de plus haut pourcentage, le plus souvent possible. Il faisait très peu d'erreurs. C'est un joueur qui est quand même très complet, puis ça se voyait pendant tout le long de la saison. C'est juste qu'il y a cet aspect spectaculaire que Slafkovský est là. Il était capable de déjouer des joueurs. Il est très bon avec les rondelles dans ses pieds, dans des espaces restreints pour un joueur de son gabarit. Puis il est quand même un très bon coup de patin pour un gars de son gabarit. Puis il n'a pas peur d'utiliser ce gabarit-là, de jouer physique, de jouer même méchant des fois, que je pense que des recruteurs ont apprécié aussi. Alors, C'est vraiment le contraste entre les deux est vraiment frappant pour moi. Puis je me rappelle, tu sais, c'est pas très souvent qu'on voit un contraste qui est tellement marqué en deux joueurs autour duquel le débat à numéro un est focusé. Je peux pas penser à la dernière fois que c'était tellement deux joueurs qui sont des attaquants, mais qui ont des styles et un profile qui est tellement différent que l'un de l'autre, là.
Oui, absolument. Puis, tu parlais tout à l'heure de la constance de Shane Wright. C'est drôle parce que c'est une qualité qui est extrêmement prisée dans le hockey. Les entraîneurs recherchent absolument la constance. Mais je me dis, à quelque part, est-ce que c'est pas aussi... c'est clair que c'est une qualité, mais jusqu'à quel point ça peut jouer aussi contre un jeune joueur? Je pense à un gars, puis c'est pas le même type de talent, mais je pense à un gars comme Tomáš Plekanec. Tomáš Plekanec, dans sa carrière avec le Canadien, il était constamment le même. D'un soir à l'autre, Tomáš Plekanec était Tomáš Plekanec. Il te donnait toujours le meilleur rendement. Tu pouvais toujours te fier sur lui. Il y a des soirs où il n'allait pas produire, d'autres soirs où il allait produire, sauf que son rendement global sur la glace, son apport dans la game, était à peu près toujours le même. Sauf que cette constance-là avait un prix parce que quand venait le temps d'élever son jeu puis de le faire passer à un autre niveau dans les moments clés, ça n'arrivait pas vraiment parce que lui, il avait son standard, son niveau. Il arrivait à le maintenir de façon régulière, mais est-ce qu'il avait une coche de plus à donner? C'est quelque chose qu'on a toujours un peu attendu au fil de sa carrière. Puis, je me pose la question si Shane Wright, qui sera probablement un meilleur joueur que Tomáš Plekanec, va se ramasser à être de ce type-là. C'est-à-dire qu'il va donner à son entraîneur tout ce qu'il a tous les soirs. Ça va être extrêmement fiable. Mais en même temps, le côté un peu robotique, d'une certaine manière, autant dans sa façon de voir, dans sa façon de parler, que dans son jeu comme tel sur la glace, très, très pragmatique, très axé sur les détails. Ce jeu-là qui va t'amener à tous les soirs, est-ce qu'il va être capable, en temps et lieu, d'en donner plus que ce qu'il donne déjà sur une base régulière? Pour moi, c'est un des enjeux fondamentaux qui entoure Shane Wright.
Ben oui, c'est une bonne comparaison, mais la différence pour moi, c'est que Tomáš Plekanec est arrivé en Amérique du Nord comme étant un joueur carrément offensif. De ses propres aveux, il allait rarement de son côté de la ligne rouge quand il jouait en République tchèque ou Tchéchia en ce moment. C'est Hamilton, avec Claude Julien, qui a appris que pour lui, pour avoir du succès dans la Ligue nationale, il va falloir qu'il ne joue pas comme ça, il va falloir qu'il joue carrément de façon opposée. Qu'il devient quelqu'un qui est un two-way, qui est défensif, mais qui est capable d'amener de l'offensive aussi. Shane Wright, il a déjà ça. Il y a déjà cet équilibre-là. Puis je pense que des fois, Tomáš Plekanec, en série, il voyait son mandat comme étant surtout défensif. Il ne voyait pas son mandat comme étant offensif. C'est moi qui vais jouer contre les meilleurs joueurs des équipes adverses. Tu sais, en 2010, il se ramassait avec Nick Backstrom et Ovechkin et Semin et toutes sortes de gros. Tu sais, en deuxième ronde, il a affronté Sidney Crosby. Surtout à Montréal, mais même à Pittsburgh, Jacques Martin était capable de l'envoyer sur la glace pendant ses présences, puis c'était quelque chose qui est très bien fait. T'sais. Sidney Crosby a quand même connu la difficulté le plus que la série avançait, puis il commençait à haïr un peu Tomáš Plekanec. Alors, je trouve que si c'est comme ça qu'il a vu son mandat, il a bien accompli sa mission. T'sais. Puis je pense que le monde s'attendait, vu que c'était le, en guillemets, premier centre de l'équipe, que le premier centre produit davantage, puis ils ont le droit de le faire, mais Tomáš Plekanec n'a jamais vu ça de cette façon-là. Il a vu son rôle comme étant « Moi, je vais neutraliser les meilleurs éléments de l'équipe adverse. C'est aux autres trios de tirer un avantage là-dedans puis d'aller gagner leur affrontement contre les deuxième, troisième, quatrième trios de l'autre équipe. » Dans le cas de Shane Wright, je trouve que le fait qu'il ait déjà trouvé un peu cet équilibre-là, il est quand même un joueur très habile offensivement, pas spectaculaire, mais habile et intelligent. Il comprend le jeu offensif sans être spectaculaire. Que je ne pense pas qu'il va avoir ce problème-là nécessairement, mais c'est clair que sa production offensive dans la Ligue nationale, à mon avis, va souffrir un peu parce qu'il prend tellement à cœur ses responsabilités défensives. Et la façon que moi, si j'étais Canadien, je vois, tu sais, comment je verrais cette attitude-là ou cette philosophie-là de Shane Wright, c'est comment est-ce que ça peut aider Nick Suzuki, avoir un gars comme ça qui joue avec lui? À quel point ça peut lui alléger les tâches qu'on lui donne? À quel point que c'est Shane Wright qui va prendre les minutes qui sont un peu plus difficiles, qui va permettre peut-être à Nick Suzuki de tirer avantage comme Tomáš Plekanec voulait que ses coéquipiers le fassent? Dans les années à venir, c'est un peu ça l'évaluation que je ferais de la situation.
Ouais. Ben écoute, puisque tu décris à propos de Plekanec, ça, d'une certaine manière, Philippe Dano a repris ce modèle-là dans les années qui ont suivi, parce que lui aussi, tu sais, il avait
donné cette mission-là. Ouais, mais la différence, c'est que Philippe Dano voulait pas cette mission-là. Philippe Dano voulait produire offensivement, puis trouvait qu'il n'y avait pas l'opportunité avec cette équipe-là. Il était tout le temps dans sa zone défensive pour des mises en jeu, rarement des mises en jeu offensives, rarement du temps sur le jeu de puissance que Tomáš Plekanec avait en masse. Alors, c'est vrai que oui, Philippe Dano avait ce mandat-là, mais c'est pas quelque chose qu'il aimait bien, puis c'est pour ça, en partie, pourquoi il est à Los Angeles en ce moment.
Ouais. Ben, de toute manière, mon parallèle à la base, c'était, puis c'est pour ça que j'ai amené Plekanec sur la table, c'est strictement à propos du fait de, au moins, d'avoir une régularité de soir en soir, puis est-ce que cette régularité-là vient avec un prix? Dans le cas de Wright, c'est un gars justement qui aussi affiche une régularité intéressante. Ça permet d'une certaine manière de réduire le niveau de risque qui est relié à un jeune comme celui-là. Puis quand les recruteurs doivent prendre leurs décisions puis déterminer qui est le meilleur choix, c'est clair qu'un gars comme ça, il y a beaucoup moins de risques qu'avec un gars comme Slafkovský. Mais je parlais avec quelqu'un, en fait, c'est un de mes amis qui m'a fait part d'une observation que j'ai trouvée très, très intéressante. Il me disait, tu sais, le facteur X que personne n'a l'air de considérer quand vient le temps de faire du recrutement, ou en fait, que personne n'a craqué le code, si tu veux, en matière de sélection des espoirs, c'est que, oui, on regarde les joueurs qui ont le meilleur potentiel. On regarde les joueurs qui ont le plus de chances d'atteindre leur potentiel, ceux qui ont le meilleur sens du hockey, le meilleur tir, etc. Il y a plusieurs données, plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Sauf que tu regardes un gars comme Martin Saint-Louis, qui disait que lui, ça, l'élément dans son jeu, dans sa carrière, qui a fait en sorte qu'il a eu la carrière qu'il a eu, c'est qu'il disait, là où j'étais élite, c'était dans ma faculté de m'améliorer. Je me suis amélioré constamment. Et ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement difficile à discerner chez un jeune joueur. Mais sauf que les recruteurs qui vont être capables d'identifier ceux qui ont ce gène-là, le gène de l'amélioration constante, ils vont vraiment toucher le gros lot. Puis ils vont être en mesure de faire des choix qui sont encore meilleurs. Parce que tu regardes des joueurs comme, par exemple, Brad Marchand à Boston, qui a été un choix, je crois, de quatrième ronde, quand même un choix assez lointain, qui encore à ce jour... À ce jour, il continue de s'améliorer, puis ça a été constant dans sa carrière. D'autres gars qui ont été repêchés à cause de leur potentiel, un potentiel extrêmement élevé, je pense à un gars comme Jonathan Toews, par exemple, qui a atteint son potentiel quand même assez tôt dans sa carrière, l'a maintenu, mais à un moment donné, il a comme un peu arrêté de progresser, ou il n'est pas passé à autre chose. Puis là, tu te dis, OK, dans le débat Wright, Slafkovský, puis on peut mettre les noms qu'on veut dans ce débat-là également. Je pense que c'est un autre enjeu aussi, c'est de dire, OK, on regarde le potentiel de chacun de ces jeunes-là, mais lesquels parmi eux vont continuer de s'améliorer, puis lesquels vont atteindre leur plafond le plus rapidement. Ça, c'est un risque parce que Kent Hughes le mentionnait l'autre jour, il dit, nous, on veut pas choisir le gars qui est le meilleur aujourd'hui, on veut prendre le gars qui va être le meilleur pour nous dans 5-6 ans. Et ça, je pense que c'est une question qui est centrale, mais autant elle est centrale, autant personne n'a vraiment de réponse là-dessus.
Ben, en fait, honnêtement, aujourd'hui même, notre expert en matière d'espoir, Corey Pronman, a sorti une liste qui est différente de sa liste qui est sorti la semaine passée, de ses meilleurs 127 meilleurs espoirs. Là, c'est vraiment une liste qui est basée sur la question que tu viens de demander. C'est qui a le meilleur potentiel? Si tous les joueurs du repêchage atteignait leur plafond, ce serait quoi son classement?
Ouais.
Puis, si tu regardes, tu sais, lui avait Slavkovski premier sur sa liste. C'est sa liste principale, là, la liste, la vraie liste qui est sortie. Mais lui est Logan Cooley numéro 1. Slavkovski numéro 2. Cutter Gauthier numéro 3. Et Shane Wright est numéro 4.
Mm.
Alors, mais la seule chose là-dedans, c'est que. Puis en fait, il y a Ivan Miroshnichenko. Miroshnichenko, qui a évidemment été atteint avec un cancer cette année, mais en termes d'habileté, c'est un peu ça l'exercice. C'est que tout le monde, si tout le monde atteignait leur plafond, ça serait ça le classement. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va atteindre leur plafond. Et parmi tous les espoirs, celui qui est probablement le plus assuré d'atteindre son plafond, c'est probablement Shane Wright. C'est ça la réalité des choses. C'est comme, alors, ça devient le pick qui est comme plus safe, mais si tu crois dans la capacité de des recruteurs et tout ton personnel de recrutement amateur de faire une projection sur ces joueurs-là, tu vas pour le gars que tu penses dans, effectivement, 3, 4, 5, 6 ans même, va atteindre ce plafond-là, puis va être meilleur que joueur X. Dans ce cas-là, probablement Shane Wright.
Ouais, mais puis tu dis, les équipes peuvent aussi se tourner vers regarder leur propre personnel de développement, puis leur track record en matière de développement, puis dire, est-ce que nous, on a fait du bon travail à développer les jeunes qu'on avait dans notre pépinière, puis à maximiser leurs outils, puis à faire en sorte qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Puis je pense que les équipes qui ont une bonne feuille de route à ce niveau-là, qui ont réussi à donner des résultats puis à maximiser le potentiel de leurs jeunes, ben ils vont probablement pouvoir se permettre d'y aller un peu plus en fonction du potentiel, parce que ils vont dire, nous on a le soutien, on a le personnel, on sait qu'on a une culture dans nos filiales, on sait qu'on a des entraîneurs de développement qui font du bon travail sur le terrain pour épauler ces gars-là. Nos entraîneurs-chefs, une fois que les jeunes sont rendus dans la Ligue nationale, sont à même de les intégrer au groupe, puis de leur donner des responsabilités suffisantes, mais en même temps, pas tout leur donner trop vite, puis ils pondèrent ça de la bonne manière, ce qui fait que les jeunes progressent et deviennent finalement tout ce qu'ils peuvent être. C'est pas évident, ça. Puis c'est pas cette adéquation-là, c'est pas toutes les équipes qui l'ont. Puis tu regardes, en bout de ligne, c'est probablement ce qui a fait le plus mal aux Canadiens durant les années Bergevin. Et c'est une des choses qui doit absolument changer sous le règne de Kent Hughes et puis de Jeff Gorton. Mais si Corey met Logan Cooley premier en matière strictement de potentiel, ben c'est sûr que c'est intéressant pour une équipe qui dit, ben nous, on excelle en développement. Le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui n'a pas bénéficié d'énormément de choix de première ronde au cours des dernières années. Ils ont souvent échangé pour combler des trous spécifiques pour maintenir une équipe gagnante, mais ils ont été excellents pour développer leur monde. Alors, les équipes qui ont cette confiance-là, ben, ils peuvent se tourner vers Logan Cooley et dire, nous, je pense qu'on va être à même d'exploiter le même potentiel, le plein potentiel de ce gars-là. Mais pour une équipe qui a peut-être un moins bon track record, se tourner vers un espoir qui est plus sûr, où le risque est moindre, ben c'est probablement plus tentant aussi.
Oui, ce qui nous ramène au début de notre conversation avec l'ajout de Marie-Philippe Poulin, avec l'ajout d'Adam Nicklaus, c'est un domaine où le Canadien aimerait ça non seulement être meilleur qu'il était, parce que ça, la barre est assez basse pour ça, mais être une des meilleures équipes de la Ligue en termes de développement, puis je pense que on va voir le développement, si tu veux, de ce département-là au sein du Canadien dans les années à venir. Mais en parlant de potentiel, j'aimerais ça maintenant vous faire entendre un peu notre entretien avec Noah Warren, un jeune homme très sympathique, très articulé, puis très qui a un potentiel qui est quand même assez intéressant dans le fond, parce qu'on voit une certaine tendance dans la Ligue nationale qui revient à une tendance du passé, puis que les Canadiens ont un peu démarré un peu l'année passée avec leur brigade défensive en série. Ben Sherratt, Shea Weber, Joel Edmondson et, une certaine mesure, Jeff Petrie, qui étaient des gars qui étaient gros, qui frappaient, au moins en termes de Edmondson, Sherratt et Weber, des défenseurs plus traditionnels, plus physique qu'on voyait dans le temps. Puis je pense qu'il y a des équipes qui ont vu que ce genre de défenseur-là a une certaine valeur en série éliminatoire. C'est la raison pour laquelle les Panthers de la Floride ont payé le prix qu'ils ont payé pour faire l'acquisition de Ben Sherratt. Ils ont quasiment réussi à avoir Ben Sherratt pour moins, en fait, pour plus qu'ils ont donné pour avoir Claude Giroux. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, le cas de Noah Warren, puis un couple d'autres de défenseurs dans ce draft-là qui sont intéressants à cause de ça. On pense à Liam Bischel, le défenseur suisse. Il y a l'autre défenseur de...
Owen Pickering,
qui est moins costaud, mais quand même 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis, ouais. Puis un gars qui est quand même assez mobile pour sa grandeur. Il y a Maverick Lamoureux, si je ne me trompe pas, c'est ça
oui,
son nom?
Oui,
Maverick Lamoureux, qui est 6 pieds 6, qui est quand même un gars comme ça. Puis il y avait un autre Jack Sparks, qui joue dans la Ligue Junior A d'Ontario, s'en va à Michigan State dans 2 ans, mais c'est un défenseur de 6 pieds 8, qui est quand même assez mobile sur ses patins, a une physique énorme, vraiment quelqu'un qui est imposant si t'es debout à côté de lui. Alors Noah Warren, il tombe dans cette gamme-là de défenseurs que je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont voir ces gars-là, puis voir un certain potentiel, mais un différent type de potentiel qu'on peut parler avec les gars qui sont plus offensifs. C'est des gars qui sont gros et grands, costauds, physiques, et capables de patiner quand même assez bien pour être capable de jouer dans peut-être dans un top 4 dans la Ligue nationale ou juste dans le top 6 d'une équipe pour ajouter cet élément de robustesse-là que les équipes cherchent en séries éliminatoires. Alors, c'était un bon entretien. Ouais.
Ouais, mais ce que je voulais rajouter à cet aspect-là, c'est que dans le repêchage de cette année, il y a plusieurs défenseurs qui sont des défenseurs de petit gabarit. Parce qu'il y a comme deux choses qui se passent. C'est que d'un côté, le succès de Cale Makard et de Quinn Hughes a fait en sorte
Adam
que ça
Fox.
Comme. Adam Fox, Samuel Girard, il y a plus de place pour les défenseurs de petit gabarit qui excellent offensivement, qui sont bons, qui sont très mobiles, qui sont bons à déplacer la rondelle. Puis, on veut leur faire une place. Mais en même temps, c'est bon d'en avoir un dans ton équipe qui va avoir ce profil-là. Puis, je pense qu'à l'heure actuelle, quand tu regardes les gars qui pourraient être repêchés, je te dirais la fenêtre là, de 20 à 50, tu as plusieurs défenseurs cette année qui ont ce profil-là. Mais en même temps, les équipes se disent « Oui, c'est intéressant de les avoir, mais ça demeure fondamental qu'en séries éliminatoires, on compte justement sur une grosse brigade défensive. » Et c'est là où un gars comme Noah Warren, qui n'a pas du tout le profil offensif excitant de certains autres de son âge qui ont 6 pouces de moins, mais 30 points de plus. Tu parles de Lamoureux, etc. Il y a deux philosophies vraiment qui s'opposent. Et je parlais à un gars à Buffalo qui disait la tendance, là, le retour du balancier vers les plus gros défenseurs est déjà amorcé. Alors, on va recommencer à voir les petits défenseurs être repêcher peut-être un peu plus loin, puis on va devancer le repêchage, le recrutement des défenseurs de très, très gros gabarits qui vont peut-être en donner un peu moins au point de vue offensif, mais, tu sais, comme disait Mike Babcock à l'époque, au sujet de Frédéric Gauthier, il est 6 pieds 5 à chaque présence. Ouais, tu sais, il y a bien du monde dans leur hockey qui pense encore de cette manière-là et qui vont faire en sorte que quand ils vont regarder la construction d'une brigade défensive, ils vont valoriser ça. Noah Warren, c'est quand même un bon patineur, c'est quand même un gars qui croit avoir un certain potentiel offensif, mais quand tu le regardes à 6 pieds 5, 225, puis il n'a pas encore 18 ans, c'est un monstre, ce gars-là. C'est un méchant colosse, là. On lui a serré la main, là, c'est des grosses palettes, là. C'est fascinant, là.
Ouais. Alors, on écoute notre entretien avec Noah Warren.
Écoute, je voulais t'entendre sur ta progression cette année. T'as fait, entre ta première et ta deuxième année, t'as vraiment fait des gros sauts. Il y en a qui parlent bon, ne serait-ce qu'au point au plan de la production offensive, ouais. Mais dans ta game, c'est quoi l'élément de ta game que tu as l'impression qui a vraiment ressorti le plus, puis qui fait en sorte que les recruteurs font être, oh, attention, lui, il faut qu'on commence vraiment à le surveiller.
Ouais, ben, je pense plus mon niveau de confiance qui a vraiment augmenté aussi. Fait que moi, je te dirais mon niveau de confiance, puis ma physicalité. Ça a fait en sorte que j'ai eu plus d'attention sur moi. De game en game, je devenais plus confortable avec les deux. Ça m'a aidé pas mal pour me rendre ici. Fait que, non, j'ai eu une bonne saison, une très bonne progression. T'sais, l'équipe aussi, on a très bien fait ça. Et on a fini deuxième dans la conférence. Une super bonne année. Peut-être pas le résultat qu'on aurait voulu
en
play-off, mais l'an prochain, on va revenir. Je pense que tous les gars vont revenir. Les gars qui sont draftés, à part Rémi, qui avait 20 ans.
Ouais.
On va revenir plus fort l'an prochain, prendre la maturité. Je pense que l'an prochain, ça va être notre année.
Tu parles de l'aspect robustesse. C'est-tu quelque chose où, spontanément, on dit OK, grand, gros, puissant, ça va être quelque chose qui. Il faudrait que ce soit un élément de son jeu, mais il y a des gars qui. À qui on le demande qu'il l'ajoute à leur game. Puis je pense que ton GM à Charlemagne, c'était comme ça, Guillaume. C'est un gros bonhomme, mais il l'avait pas naturellement à lui. Puis arrivé dans Ligue nationale, on dit ben là, faut que tu frappes. Mm-hmm. Toi, tu sens-tu que t'as naturellement un mean streak?
Ouais, mais moi, je sens que je rentre au milieu 3, je l'avais naturellement. Mm. Peut-être ma deuxième année immédiate, puis il a fallu que je me retienne un peu. Je pognais pas mal de deux, puis
ça aide pas quand c'est tellement plus grand que tout le monde.
Ouais,
d'autre,
c'est ça,
là,
plus
les
grand,
fois, tu frappes,
les arbitres étaient moins tolérants, tout ça. Mais là, tu sais, depuis que je suis rentré au junior, c'est revenu plus naturel. Les graphiques, ils tolèrent plus. Les gars sont tous plus gros. Fait que, c'est pas mal naturel pour moi.
Ok.
Ton coup de patin, ça aide là-dedans, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas juste être gros pour frapper du monde, il faut que. Il faut que tu le times bien, il faut que tu sois capable de les attraper. Comment l'évolution de ton coup de patin a aidé là-dedans?
Ben moi, j'ai un très bon coup de patin. C'est pour un grand, je suis pas mal rapide, vraiment agile aussi. Ça m'aide beaucoup. Non seulement pour aller frapper des gars, mais quand j'ai la rondelle patinée avec le pot, je peux juste avoir un bon gap quand je reçois l'attaque.
Ta carte de visite, c'est vraiment le jeu dans ta zone, par exemple. C'est ça, gap control. Bon bâton, tu parles de l'utilisation de ton physique, puis ton positionnement aussi, fait que ça fait comme c'est comme les quatre chevaliers de l'apocalypse dans la zone. Est-ce que tu vois comment le hockey évolue aujourd'hui, puis on sent qu'il y a une tendance à ce que ça redevienne offensif. Bon, les équipes sont à la recherche de défenseurs qui vont être excellents en transition, puis offensivement. Est-ce que pour un gars qui est d'abord et avant tout, qui se définit par son style défensif, est-ce que toi, tu dis, OK, je regarde, mettons, les playoffs de l'année passée, ce que le Canadien de Montréal a fait avec une plus grosse défensive, dis, il y a de la place dans le hockey d'aujourd'hui pour un gars comme vous?
Oui, exactement. Je pense qu'il y a encore de la place pour les joueurs de hockey comme moi. C'est plus défensif, robuste, puis qui ne vient pas. Mais tu sais, toutes les équipes mondiales, on cherche vraiment ça. Tu sais, des gros gars physiques, rapides, smart avec le puck, mais surtout des droitiers. Il y en a de moins en moins à ce temps. Il y a vraiment des équipes qui recherchent ça.
Est-ce que tu sens que, au niveau de ton. C'est sûr que le coup de patin, tu mentionnais que c'était un de tes atouts. Puis je sais qu'au top prospect, tu as eu un chrono qui a surpris bien du monde. Mais au plan de la mobilité, tu sais, quand, mettons, un gars attaque, toi, t'es dans ta zone, faut que tu pivotes. Au niveau de la mobilité, de l'agilité...
Le footwork,
c'est ça. Plus le footwork, est-ce que tu sens qu'à ce niveau-là, ça va être une clé dans ton développement?
Ouais.
Cet aspect-là du jeu en particulier?
Oui, je pense que déjà assez bon, mon footwork, mais tout peut être meilleur. Là.
Ouais.
Mais tu sais, si je continue à développer ça, puis en plus avec ma rapidité, ça va juste m'aider.
Comment est-ce que tu te vends? Auprès des équipes, comment est-ce que tu fais le marketing de Montréal
quand tu parles aux équipes? Je suis pas mal tout le temps un bon lockdown D, tough à jouer contre, je physique, bouge bien son puck. Cette année, j'ai quand même assez produit côté points. C'est sûr que je peux plus produire, mais je pense que ça va venir avec le temps. En jouant plus de games, devenir plus confortable de ce côté-là. Mais c'est ça, quelqu'un qui compétitionne à chaque soir, mon rôle, c'est de défendre mon coéquipier quand il y a une coque qui arrive.
Mais l'offensive d'un défenseur, c'est pas
c'est pas toujours nécessairement, ouais. Ça se traduit pas en points tout le temps. Tu peux être très bon en transition, mais tant que tu relances l'offensive,
la première passe,
la première passe, c'est que c'est là ta contribution. Est-ce que cet aspect de ton jeu, même sans les points, es-tu assez content avec cette phase de ton jeu?
Ouais, je suis assez content que en première passe, transition, puis tout ça. Ça a super bien été. J'ai quand même mis de l'emphase là-dessus. Tout le temps, toutes les passes sur sa palette, pas tout le temps checker pour la deuxième, troisième option. La première option est là, parfait. Alors, ça, tu vas aider. Souvent, ça aide quelque chose à rien.
Qu'est-ce qui. C'est drôle parce que dans la Ligue Jean-Major du Québec, il y a un autre défenseur qui a à peu près la même shape que toi, en Maverick Lamoureux. Y a-tu un genre de compétition indirecte, de dire j'aimerais ça être drafté avant lui? Est-ce que c'est-tu un gars en particulier dans le draft là, avec qui tu te mesures un peu?
Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr que je me mesure un peu avec lui. Ça serait fun que je sorte avant lui.
Ouais.
Mais tu sais, joueur similaire, on joue le même style de jeu pas mal. C'est un très bon joueur aussi. Mais tu sais, les deux, on joue physique. Ça va être aux équipes de décider qui va sortir en premier.
Est-ce que t'as-tu eu un entretien avec les Canadiens?
Ah ouais, j'en ai eu.
Comment ça s'est passé avec eux?
Ça a bien été.
Ouais?
Ouais, ça a bien été. C'est moi, je connaissais un peu Kent avant parce qu'il était avec mon agence. L'entrevue, ça a bien été. Il était pas avec eux.
Ok. Ouais. Mais ça a toujours été plus fait ton.
Ouais, toujours plus fait, mais tu sais, dans les camps d'été, tous les agents sortent. Il venait à Montréal. Puis, je jasais avec de temps en temps.
Vas-tu faire le camp en fin de juin? Avec eux?
Avec Cortex?
Ouais. C'est pas?
Non, c'est juste les jeunes.
C'est juste les jeunes.
C'est les.
Ah, c'est les prospects dans
le fond. Ouais, les prospects. Ouais.
Qui, ok.
Je pense, quand t'es rentré en junior, tu le fais pas.
C'est fait. Ok.
Tu viens d'une famille d'athlètes? C'est assez phénoménal. Mais tes parents sont. C'est beaucoup la natation. Est-ce que pour un gars qui a été élevé dans c'est ça, par des parents qui sont nageurs, qui sont dans la natation, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré à ton entraînement?
Tu sais, mettons. Natation?
Ouais.
On en fait. Je pense que ça fait 3 ans qu'on en fait. Les jeudis, l'été, juste pour travailler le cardio puis l'endurance. Ça marche assez bien. Moi, j'aime ça. Ma mère est super bonne. Je pense que ça me clenche encore.
As-tu jamais fait des courses ou tu es jamais compétitif en natation?
Non, pas vraiment.
Non.
Ben, je me dis, en général, les joueurs de hockey ont leurs habitudes au niveau de l'entraînement, ce qui va les aider dans leur sport, mais en même temps, on entend tellement de gens dire que ce serait bon que les joueurs de hockey ne se concentrent pas seulement sur ce qui est spécifique au hockey, puis qu'ils exposent leur corps à d'autres affaires. Puis peut-être que, tu sais, je me disais, ce serait peut-être un peu outside the box d'aller du côté de la natation, mais peut-être que c'est ça, ce serait
moi, intéressant. Souvent, je fais du track and field l'été, de l'athlétisme juste pour développer d'autres choses, pas seulement être dans le gym et lever des poids. Moi, j'ai rajouté ça, puis la natation à mon entraînement.
Tu fais des sprints ou tu fais d'autres choses?
Sprint, saut, puis 400 mètres.
So, long jump ou high jump?
Long jump.
Puis,
es-tu bon?
Ouais.
Ouais? C'est quoi ton meilleur
proche du. 5, je pense, ou 4.
5 mètres?
Ouais.
Ok. Ah oui, t'es bon.
C'est long, ça.
Ouais, c'est ça.
Puis quand tu. Je sais que la question est cliché, mais quand tu regardes le hockey de la Ligue nationale, est-ce qu'il y a des défenseurs auxquels tu t'identifies? Pas nécessairement. Ben, ceux qui peuvent être pour toi des modèles et ceux qui, à ton avis, pourraient être des comparables au genre de joueur que tu
veux. C'est André Miller et Brandon Carlo.
Ah, OK.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aimes du jeu de Miller? Pourquoi c'est pas
similaire? Il est grand, il patine vite, il joue physique, puis il bouge vraiment bien son puck. Mm-hmm. Je c'est pour ça que c'est plus mon joueur comparable.
Il connaît toute une saison quand même.
Ouais, c'est, ouais, c'est vraiment bon. Ouais, parlant de gars qui, c'est ça, qui est en progression aussi, tu vois que ça s'améliore. Souvent, on entend au hockey que c'est plus long pour les joueurs plus grands, plus gros. Le développement, il faut être patient. Est-ce que tu penses que ça demande un effort conscient aussi pour un gars comme toi de dire, ben, je vais mettre la patience requise, puis ça prendra le temps que ça prendra au lieu de tout vouloir tout de suite. Parce que, justement, ça se peut que la pleine maîtrise de ton corps prenne plus de temps qu'un petit shifty de 5 et 10.
Ouais, ben, tu sais, attends, je vais pas essayer d'apprendre plusieurs choses en même temps, tout le temps, plus focusser sur une affaire, ce qui va m'aider vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je sais que ça va pas arriver de même, là, ça va prendre du temps. Fait. Non, moi, je suis assez patient avec ces affaires-là.
Ouais. C'était quoi ton... Comment tu décrirais-tu tes jours d'hockey mineur? Tu as grandi à Saint-Jean ou c'est...
Ben, j'ai fait 4 ans à Saint-Jean.
Ouais.
Ça, je suis déménagé à l'Île-Bizarre. Okay. J'ai fait tout mon hockey mineur pas mal à l'Île-Bizarre, à Lac-Saint-Louis.
OK.
C'est super le fun. Ouais. Je pense que c'est là que j'avais fait mon premier tournoi avec Tristan et Véro. C'est dans les Stallions l'été.
Ouais.
Des tournois partout au Canada et une couple de places aux États-Unis. Non, hockey mineur, ça a super bien été. C'est souvent mon père le coach. Le père de mes amis, mais non, ça a bien été, je me suis bien développé. Après ça, je suis retourné à Saint-Jean et j'ai fait mes 3 ans avec le CCL.
C'était comment ton père comme coach?
Tu me donnais un petit carré de report,
ça.
C'était tough un peu. Ouais. Plus sur moi, là.
Classique.
C'est normal, là. Il veut que je m'améliore, puis il veut que je performe.
Tu es partisan du Canadien en grandissant, ou est-ce que...
Oui, c'est ça. Quand j'étais petit, ouais. J'aime bien le Canadien. C'est grand fan de Piqué Souban.
Ouais.
J'ai vieilli, puis là, j'étais plus devenu un fan de la game à la place d'avoir une équipe quand même. Là, j'ai même pas d'équipe préférée. Fait que,
ça tombe très bien cette semaine. Tu peux être le fan de toutes les équipes.
Exact.
Oui, c'est ça. Je voulais. Tu as mentionné au passage Tristan. Peux-tu un peu nous parler de lui? C'est intéressant parce que nous, étant donné qu'on suit le Canadien à longueur d'année, là, ils ont des pics en 26, 33, puis c'est peut-être tout. C'est un autre gars qui peut tomber dans cette braquette-là. Fait que pourrais-tu me parler du genre de défenseur qu'il est, puis de t'sais, son nom a circulé quand même depuis assez longtemps. Fait que qu'est-ce que tu peux me dire sur lui?
Ben, tu sais, moi, Tristan, ça fait longtemps que je le connais. C'est un super bon gars. Un de mes très bons amis, même à ce jour-ci. Lui, il travaille vraiment fort. Hors glace, à glace. Il est vraiment strict sur qu'est-ce qu'il mange pour rester en shape. Il travaille fort dans le gym, vraiment fort dans la glace. Il compétitionne. Un gars qui veut tout le temps s'améliorer. Il regarde ses games, prend des notes. Avant un game, il va relire ses notes. Puis ça, il a tout le temps sa même petite routine. C'est ça qui fait qu'il performe. C'est un joueur offensif. C'est vraiment talentueux, il a des bons skills. Puis cette année, il a produit. C'est quand même assez de buts. Puis beaucoup d'assists. Il a bien fait ça.
Ben, merci d'avoir pris quelques minutes pour venir me voir. Merci. Bien apprécié. All right. Bonne chance pour le reste de la semaine.
Merci.
Donc, c'est ça. Très, très intéressant entretien avec Noah Warren. Écoutez, vous avez pu entendre là, les bruits de vaisselle et tout ça. Faut que vous compreniez qu'on était dans le contexte au Combine à Buffalo. On a rencontré beaucoup de monde dans le restaurant du lobby de l'hôtel parce que c'était là qu'on pouvait le mieux les attraper. Fait que j'espère que la qualité du son ne vous a pas trop importuné. Mais un gars charmant, puis ça m'a frappé cette année, Harpin, de voir à quel point il y a plusieurs gars avec une aisance à pouvoir s'exprimer puis à pouvoir être à se présenter avec le sourire. Il y a des personnalités extrêmement comme extraverties qu'on a vues au Combine. Je pense entre autres à Owen Pickering, je pense évidemment à Yoav Slavkovski, je pense à Roger McGroarty. Ben des gars qui, cette année, tu fais « Wow, c'est quel personnalité rafraîchissante. Maverick Lamoureux, écoute, ce gars-là, il y a des équipes qui vont dire ça nous le prend dans notre équipe parce que c'est comme amener un soleil dans notre équipe, dans notre vestiaire. Ça va nous prendre un gars comme ça. Et, tu sais, Noah Warren, c'est peut-être une personnalité un petit peu plus réservée. C'est pas l'exemple type de ce dont je parle, mais quand même, je trouve que les jeunes de cette année, en majorité, ceux à qui on a parlé avaient, en très grand nombre, avaient ce trait-là, puis j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ajouterais le nom d'Isaac Howard à ce liste-là, puis, tu sais, on a quand même pas parlé à tous les joueurs, là, mais il y en avait plusieurs qui a ce trait-là. Et c'est juste, je pense que cette génération-là a une certaine confiance en soi, puis une confiance de parler d'eux-mêmes, qui, ça fait pas très longtemps, peut-être 5, mais peut-être 10 ans, que les joueurs de hockey étaient vraiment découragés de parler eux-mêmes comme les jeunes le font maintenant. Et c'est un changement qui est le bienvenu dans le monde de hockey, dans le domaine de hockey, d'être capable, sans être arrogant, mais de reconnaître tes qualités comme joueur et les exprimer avec une certaine confiance que si moi j'étais une équipe de hockey, je trouverais ça comme étant une qualité et non un défaut. Puis je pense qu'effectivement, les jeunes de cette génération-là, ils l'ont à ces qualités-là.
Ouais, c'est ça. La génération Z, tu sais, c'est ailleurs sur le marché du travail, pas dans le hockey, mais les entrevues pour les emplois dans d'autres secteurs, les jeunes d'aujourd'hui disent bon, ben là, au lieu que ce soit qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter. Puis si vous faites pas l'affaire, ben désolé, je vais trouver du boulot ailleurs. Ça serait drôle qu'un jour les entrevues du combine de la Ligue nationale prennent cette tangente-là, puis qu'un joueur, un jeune de 17 ans dise aux équipes, vous savez, tu sais, si ça fonctionne pas avec vous, de toute manière, il y a d'autres personnes, je trouverai bien du travail quelque part. Ça serait très drôle que ça prenne ce virage-là, mais enfin, c'est peut-être pas demain la veille à cause des règlements, la façon que ça fonctionne dans le hockey. Écoutez, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour une autre émission du Super Athlétique. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode en anglais. Si jamais cet épisode vous a plu, ben n'hésitez pas à aller mettre une note sur le site du podcast. En fait, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, peut-être ajouter un commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, on vous rappelle le petit boniment à chaque semaine. Mais si vous n'êtes pas abonné encore à The Athletic, là où Arpin et moi écrivons sur une base régulière, ben vous pouvez le faire en allant au www.athletic.com/supportathletic. Donc, c'est athletic.com/supportathletic. Et en tant qu'auditeur de notre podcast, ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, vous pouvez très bien en profiter. Ben voilà, Arpin, quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, pas grand-chose. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on se reparle la semaine prochaine quand il reste moins d'un mois. Il reste moins d'un mois avant le premier choix du repêchage 2022 va avoir lieu au Centre Bell. Les billets pour le repêchage tombent en vente. Je pense qu'il y a une pré-vente sur le site web du Canadien jeudi, mais la vente générale est vendredi matin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment est-ce qu'on peut procurer des billets. Ben voilà, ça s'en vient cette semaine. Alors, si vous voulez être là, les ventes commencent cette semaine, mais à part ça, on sera de retour la semaine prochaine pour The Athletic Sport en anglais. Et merci encore de nous avoir écoutés.